la première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h, par où dire ?
Pascal Tison.
Dis-moi, par où dire ?
En fait, c'est un peu la suite d'un petit événement qu'on avait créé ici à Venise en 2011 avec le même slogan. C'est « Some of the best Belgian artists are here ». Ce carton, le précédent et celui-ci, ne renvoie pas vers une invitation, un événement, mais délivre un message. Et le message de cette année, comme maintenant on commence à le savoir peut-être, c'est cet événement qui s'est passé au niveau du choix des artistes de la part des décideurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et là, nous avons donc décidé, nous, symboliquement, ça ouvre la discussion aussi, donc de réutiliser ce slogan, « Some of the best Belgians are here ». Et on a opéré un choix d'une centaine d'artistes francophones, comme un curateur qui choisit des artistes, donc ça reste tout à fait subjectif, tout ça, mais dont on a flamandisé les noms.
Biennale de Venise 2019. Première partie. Participation de la Belgique. Au pavillon des Jardini. Mandokane. Mention spéciale pour le pavillon de la Belgique.
Deux artistes qui travaillent ensemble, ce qui est déjà assez particulier, donc qui forment un duo depuis qu'ils se sont rencontrés en école d'art à Sint-Lucas, à Bruxelles, qui ont reconnu l'un dans l'autre les signes, je dirais, d'une même observation du monde.
Anne-Claire Schmitt.
Et se sont mis à pratiquer cette observation ensemble. À appliquer aussi une sorte de ping-pong ou d'échange qui les intéresse. Et donc, ils travaillent ensemble depuis les années 80 et ils produisent un langage que je trouve extrêmement singulier. Ils se démarquent aussi par sa posture et sa tonalité de manière très forte de la culture visuelle, mais aussi de communication qui nous entoure. Qui fait preuve de beaucoup d'indépendance aussi, je pense. C'est un langage très singulier qui m'intéresse beaucoup.
Car aujourd'hui, c'est l'ouverture officielle du pavillon. Nous avons la ministre qui vient parler à 14h. Et c'est donc le grand jour.
Et hommage à Eric Descartes, 1953-2019, qui occupa le pavillon de la Belgique en 2006. Avec Margot Schwartz, Antoinette Chatillon, Alda Creoli, Emmanuel Dundic, Laurent Jacob, Roland, et les voix de Harold Tess, Jos de Kreuter, Tadeusz Kantor et Anne-Claire Schmitt. Biennale de Venise 2019 par Thierry Genicot. Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58 ?
Absolument.
Des places de Belgique.
Les Kaliskis.
Mon œuvre.
Allez, ma cinquième.
C'est une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture.
Allez, Chinsky.
Authentique, me tentop, me tentententum, stélé.
Le monde invisible.
Cette lenteur, qu'est-ce qu'elle est ? Je pense que c'est une précaution. C'est aussi lié à l'observation. C'est-à-dire que c'est pas une conversation ou un dialogue qui critique ou qui juge, mais c'est plutôt quelque chose qui regarde. Et je pense que pour regarder, il faut peut-être ne pas être trop rapide.
À gauche, les deux poupées, dont l'une sur un chariot, que l'on appelle Flap et Flop. Les portraits sont ceux des artistes, les figures qui accueillent le visiteur, qui guident ensuite vers la pièce centrale au centre de laquelle se trouve un ensemble d'artisans qui s'anime au passage du visiteur, à côté du pizzaiolo que l'on appelle Sateri.
Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
À gauche de cet ensemble d'artisans se trouve la femme rate qui tape du bâton avec un ensemble d'objets à ses pieds.
Antoinette Jatio.
Puis nous continuons la visite et découvrons derrière des grilles, car j'ai oublié de préciser que les niches parallèles et au fond du pavillon sont fermées par des grilles qui sont impressionnantes, qui peuvent choquer, où l'on s'aperçoit de la présence de ces deux mondes parallèles et de ces personnages qui semblent séparés et enfermés dans leurs habitudes ou dans leur monde très personnel.
Ça, c'est ma tête. Ben, on voit rien. Il y a une tête à Harald aussi.
Il y a les poupées de Jos et Harald, effectivement. Tous les deux en peignoir.
Alda Crioli.
Ils sont très complémentaires. Et donc, quand on les rencontre ensemble, il y en a un qui préfère parler et un autre qui préfère se taire. Mais on sent que dans l'expression, dans ce qu'ils amènent dans la construction de leur œuvre, il y a une belle complémentarité.
Je vois des imprimantes qui construisent des têtes. Je vois des costumes. Je vois comme des articulations. Est-ce qu'on aura affaire à une sorte de théâtre d'objets ?
Pas mal d'automates qui vont faire des mouvements en répétition. C'est pas des personnages très intelligents, donc ils vont faire toujours la même chose. Il y a des gens qui vont faire des choses utiles, des artisans qui vont montrer des vieux métiers, et puis des prisons aussi, et derrière les barreaux des prisons, des gens qui font des choses pas très utiles. Mais en fait, les deux sont les mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont tous dans une sorte de psychose où ils font des choses en répétition sans que ça a aucun but. Ils sont comme ça. Il peut rien y changer. Ils sont comme ça.
Nos artistes ici, à la fois Harald Theis et Jos de Gruyter, vont imprimer quelque chose de particulier à toute la biennale.
D'où sortent-ils ?
De nos têtes. Il y en a qu'on connaît déjà il y a longtemps. C'est des fictions un peu. C'est parfois un peu basé sur le caractère des gens qu'on connaissait, qui jouaient aussi dans des films à nous. Et aussi des personnages inventés qu'on a construit surtout en allant de Charleroi aéroport vers Bruxelles. Là, on a eu beaucoup d'inspiration sur des personnages un peu marginaux, un peu extrêmes.
La Gréoli, vous dites philosophie.
Je parle de philosophie, je parle de l'esprit qui est dans leur œuvre. Alors c'est vrai qu'ici, à Venise, une forme de... Comment est-ce que je vais appeler ça ? Un musée folklorique du monde ou du folklore, en particulier du folklore belge, évidemment. Et donc, quand je parle de philosophie, c'est parce que derrière ça, il y a un message profond. Il y a un message profond sur l'ouverture à l'autre, sur ses propres peurs, sur la peur de l'autre. Oui, pour moi, ça relève de la philosophie, oui.
Alors, pour moi, toutes les valeurs artistiques, philosophiques, de la vie, sont... dans la condition dégradée, c'est-à-dire la plus basse.
Tadeusz Kantor.
Pour moi, la création, ce n'est pas le procédé très, vous savez, très élevé, vénérable. Non, c'est presque la cuisine. C'est presque la cuisine. Alors, comme on fait dans la cuisine mélange, vous savez, et on mélange beaucoup de produits et enfin on donne les plats magnifiques. Oui, c'est la réalité dans les plus bas. Oui, c'est pour ça que je mélange. J'ai toujours mélange. J'ai aucune ligne droite qui mène, je ne sais pas, à la fin.
Moi, je suis Jos, c'est Harald.
Jos,
de Gruyter.
Et Harald.
Thijs, Harald Thijs.
Cette installation, cette œuvre d'art, met à jour nos replis invisibles, notre conformité. Et parfois, quand on se croit dans la modernité, c'est peut-être dans ces moments-là qu'on est les plus conformistes. Et donc, ça vous arrive à la figure comme ça. Et si j'avais vraiment quelque chose à mettre en évidence, c'est cet appel à ne pas se replier sur soi.
Quand je vous écoute, je pense à un petit voyage que j'ai fait, mais à l'époque, en Pologne, à Cracovie, pour rencontrer le metteur en scène Tadeusz Kantor. Vous connaissez ?
Cet axe, c'est la notion de la mort. Mais en même temps, c'est la notion de la vie. Et c'est, en même temps, c'est la notion de la mémoire et c'est la notion du passé. Parce que pour moi, s'il s'agit de la réalité, c'est plutôt le passé qui est valable. Parce que le temps présent, c'est très fluide, c'est, n'existe pas, parce qu'il change toujours. Le futur, l'avenir, pour moi, n'existe pas. L'avenir n'existe pas, s'il s'agit de la création.
Oui, on connaît un peu. On était invité à Cracovie pour une conférence sur lui. Et comme la personne qui avait organisé sentait qu'il y avait des choses similaires, il nous a invités pour parler aussi un peu de notre travail. C'était Kantor.
Ah, Kantor, ah, oui, oui.
Pour moi, c'est le passé qui compte.
Mais j'ai pu le rencontrer, moi.
Ah oui?
Oui, oui. Et l'interviewer.
Ah oui?
Sur son
dans
théâtre.
Dans
les années 80.
À Cracovie.
Oui, oui, dans son théâtre Krikodeu. Oui, oui, oui.
Pour moi, c'est le passé qui compte. C'est le passé qui est la réalité parce qu'elle est connue. Le passé est connu. Et le passé est enregistré dans notre mémoire. Ce n'est pas le sentimentalisme, non. Ce n'est pas le symptôme de la vieillesse, non, non, non. C'est le passé, pour moi, c'est la réalité. Alors, cette ligne, cet axe, ça peut être la notion de la mort, la notion du passé, la notion de la mémoire.
Nous sommes dans ce même monde.
Oui. On travaille souvent avec des petits traumatismes en étant quelque part, regardant un peu trop longtemps une scène, un personnage. Pour ne pas tomber malade, on en fait une personnage qui va nous servir plus tard dans notre travail. C'est une question de survivre, oui, et de projeter pas mal de choses. C'est ce qu'on a vu.
Une route à la campagne, avec un arbre, le soir. Estragon, assis sur une pierre, essaie d'enlever sa chaussure. Il s'y acharne des deux mains. Il s'arrête à bout de force.
Et c'est drôle, quand je vous écoute, je pense tout d'un coup à Samuel Beckett. Vous connaissez ?
Un peu, hein ? Un peu. On a dit ça plusieurs fois, qu'il y a un peu de ça aussi.
Rien à faire.
Je commence à le croire. J'ai longtemps résisté à cette pensée en me disant « Vladimir, sois raisonnable. Tu n'as pas encore tout tes signes. »
Mais là... Oui. Mais on est... Oui.
Peut-on savoir où monsieur a passé la nuit ?
Dans un fossé.
Un fossé ?
Où ça ?
Par là. Et on ne t'a pas battu ?
Si. Pas trop.
Toujours les mêmes ?
Les mêmes ? Je ne sais pas.
Quand on entre dans le pavillon, on arrive dans une sorte de musée folklorique dans lequel nous avons au centre du pavillon des artisans. qui travaille. On a des poupées automatisées à l'allure assez désuète au centre du pavillon et dans toutes les alcôves du pavillon qui sont fermées par des grilles de prison peintes en blanc. Nous avons plusieurs personnages qui ne sont pas nécessairement des rejetés de la société. On se demande, moi je trouve que ce qui ressort beaucoup, c'est pourquoi ces personnages sont en prison et qu'ils n'ont pas forcément des allures de délinquants, par exemple.
Le souvenir de quelque chose qui néanmoins est palpable. On se souvient d'une atmosphère, d'une tonalité et d'une situation. Je me souviens d'un homme de guerre, de son lieu de travail, assez obscur, assez amateur aussi, qui rend compte d'obsessions personnelles, un chocolat, un chacha sur la table, d'une habitude et d'une obsession d'ordre personnel, mais aussi d'obsessions plus sociétales, qui appartiennent plus au groupe.
Une crabe qui entre dans une bouche. Le personnage s'appelle Brigitte Panekoek.
Pour l'instant, en tout cas, moi, je travaille à côté de Brigitte et de sa mère. Sa mère est en fauteuil roulant, en training, avec vraiment des habits d'intérieur vraiment assez glauques, avec un coussin pour le cou et des petites lunettes sur son fauteuil roulant.
Elle vient du nord de la France. Elle a une obsession psychiatrique avec des scampis. Donc elle adore les scampis et ça devient un peu une chose sexuelle.
Et en face d'elle, sa fille, Brigitte, qui a un corps absolument énorme, qui est comme une espèce de bébé peluche qui aura des scampis dans la bouche.
Une femme qu'on a inventée notamment en venant de l'aéroport de Charleroi.
Assez écœurante, très très pleine, comme si elle a l'air très mal en point. On est très déstabilisé par la présence de Brigitte, qui pour l'instant en plus est jonchée sur le sol.
Le paysage est plus fort que le sérieux. Les intentions ne sont pas au même niveau que la réalité. Il y a un hôtel là-bas. Et ça pourrait être un hôtel à Spitsbergen. Il y a beaucoup de pluie. Et puis, il y a des bâtiments assez vieux. Une petite église aussi, je pense. Et c'est quand même un paysage très imbibé de tristesse, mais aussi très inspirant pour nous.
Une forme d'érotisme inconfortable.
Quand ça se passe dans la boue et la pluie, des villages ou des petites villes un peu tristes.
C'est pas le borinage, hein, pas encore.
Donc c'est un travail qui est en état de choc.
Anne-Claire Schultz.
Et qui ne choque pas. C'est lui qui est en état de choc.
Cet axe, c'est la notion de la mort. Mais en même temps, c'est la notion de la vie.
Il y a quelque chose du folklorisme, il y a quelque chose de l'arrêt du temps, alors que tout le monde sait que le temps ne s'arrête pas, mais surtout que si la transmission a tout son sens, et je pense que la transmission a tout son sens, le conservatisme, lui, n'en a pas beaucoup.
L'avenir n'existe pas s'il s'agit de la création.
Franceline de Veugler est née à Vervic en 1938. Durant toute sa vie, Franceline s'est plainte d'être née. Elle estime que les autres sont toujours privilégiés. Par exemple, dans un restaurant, elle pestera sans arrêt, estimant avoir été moins généreusement servie que les autres clients. Nombreux sont ceux qui la détestent, ce qui lui convient parfaitement, car elle peut alors se disputer avec eux en leur vouant une haine redoublée. Ce sentiment de persécution rend la vie de ses proches particulièrement pénible.
La question à de savoir, c'est qui est en cage. Est-ce que les cages enferment les artisans que l'on voit? Et quand on dit les artisans, ce n'est absolument pas contre les artisans. C'est au travers des artisans, cela montre cette transmission dans la conservation.
Je pense à des figures qui viennent tout droit de la guerre, 40,
Par exemple, une femme qui a été collaboratrice.
Oui.
Vous voyez qui c'est ?
Oui.
Madame Legrand, qui est une femme qui était collaboratrice pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais tellement que les Allemands ont dû la calmer. Et c'est une femme qui est amenée en corbillard dans une certaine quartier à Bruxelles et qui a beaucoup de pouvoir encore. Et quand elle ne reçoit pas ce qu'elle veut, elle donne des coups de pied qui font vraiment mal.
On sait que l'âge mental de l'idiot a soudain cessé d'évoluer vers son 8e anniversaire. D'une visite au jardin zoologique en compagnie de sa tante, il a conservé une fascination exceptionnelle pour les animaux nocturnes. Il est ainsi resté immobile pendant des heures, le regard plongé dans les yeux d'une chouette, comme sous hypnose. Depuis, il ne chante que des chansons apprises dans son enfance.
Des noms de lieux, Brendonk.
Oui.
Pourquoi Brendonk ?
Brendonk, donc c'est un fort en Belgique qui a servi de camp de concentration nazi, le seul en Belgique. Donc c'est un lieu qui est sur la A12, cette autoroute qui relie le ring d'Anvers au ring de Bruxelles. Et c'est une route qui a pas mal inspiré les artistes, ou que les artistes ont régulièrement emprunté. Et en fait, les autoroutes et les routes inspirent beaucoup Harald Eyos. Parce que d'une part, ils sont dans leur voiture et je pense qu'ils se parlent beaucoup quand ils sont en voyage, en voiture.
Et est-ce que ce sont ces gens qui sont à l'extérieur qui sont enfermés ? Ou est-ce que ce sont les gens qui sont à l'extérieur qui sont en fait libres et qui, eux, tendent à une envie de quelque chose qui va les enfermer ? Et donc, voilà, ça interroge vraiment tous les pans. Hein.
Quelques gens au 19e siècle qui ont eu des visions où ils ont vu une femme qui flottait légèrement et qui tournait sa tête 360 degrés. Ces gens-là, ils ont eu des psychoses et tous vu cette personne aux alentours de Brendonk, qui est aussi un terrain assez chargé, des champs avec la brume, la boue et des visions, des hallucinations, trop de bière aussi.
L'autoroute, dans sa trajectoire un peu monotone, en fait pousse aussi à s'arrêter et à peut-être aller visiter des choses sur une aire d'autoroute ou à faire une étape quand on voyage, qui permet de voir toute une série de choses aussi sans que ce soit vraiment prémédité, en fait. Donc c'est un peu comme des surprises, mais souvent des surprises assez banales.
Mais on était souvent dans le camp déjà moitié années 80, et c'est là qu'on s'est inspiré beaucoup pour faire cette expo que vous avez vue à Wills, avec un sorte de dictateur qu'on avait imaginé. Et on est quand même assez obsédé par une certaine mentalité allemande, une austérité et une brutalité ça c'est un terrain inépuisable pour nous parce que ça continue d'une autre manière.
Et la A12, bon, ils l'ont souvent empruntée. Déjà, ils étudiaient à Skarbek et ils allaient rendre visite le week-end à des membres de leur famille qui leur faisaient emprunter la A12. Et sur la A12, il y a pas mal de résidus culturels. Et c'est quelque chose qui les intéresse beaucoup et qui sont l'un à côté de l'autre, un peu comme une compilation de choses improbables. Le carré de Willowbrook, mais qui est fait de restes du pavillon Côte d'Or à l'exposition 58. Il y a une église baroque assez belle, une chapelle baroque. Il y a un tank qui est une sorte de symbole de la libération. Il y a la maison Guillette, la seule construction du Corbusier en Belgique. Et il y a Brendonck. Et Brendonck, c'est aussi un lieu qu'ils ont visité pas mal, étudiants ou en étant jeunes artistes. Je pense parce que c'est un lieu, évidemment, de terreur, qui fait très peur et qui est très frais, en fait, dans le rappel de la terreur. C'est quelque chose qui ne disparaît pas. Mais il y a aussi autre chose. Je pense que c'est aussi un lieu dans lequel on muséifie, où on a créé un musée autour d'un moment de l'histoire tragique.
Anne-Claire Schmitt.
Dramatique. Et le musée aussi adopte des modes de présentation. Je pense qu'il les intéresse, ou une manière de parler, ou une narration qui les intéresse.
Moi, c'est Harald Thijs, Jos de Gruyter.
Voilà, et c'est quelque chose aussi qu'on retrouve dans leur travail, surtout depuis quelques années. Ils ont produit des expositions qui, elles-mêmes, s'intéressent un peu à des rhétoriques d'exposition ou de présentation.
Comme l'expressionnisme.
Attendez, là, je dois réfléchir.
Comme l'expressionnisme, puisqu'il me semble que nous sommes dans l'expressionnisme, dans des figures, dans une tradition. Hein. Je pensais à Masaryk, hein, ça vous dit quelque chose, Franz
oui,
Masaryk.
Oui, bien possible, bien possible.
Et Harald Thijs parle aussi souvent du trajet ou de la route qu'il y a entre Wavre et Bâle.
Parce qu'on a fait un concert d'orgue il y a une semaine, et là, soudainement, à cause des lumières qu'on avait installées, ça devenait comme un film expressionniste allemand. Il y avait quelque chose qui se passait.
30.
Oui.
Pour moi, c'est le passé qui compte. C'est le passé qui est la réalité parce qu'elle est cognée.
Oui, ça sera assez théâtral. Hein.
L'automation, même si elle est d'ordre technologique, elle amène avec elle aussi une idée un peu régressive de la technologie. C'est pas la technologie dernier cri. On n'est pas du tout dans des avatars. On est vraiment dans de l'automation pure et dure, mécanique. Pour moi, induit cette idée régressive ou de régression. Et ce que je trouve intéressant, je vais essayer de formuler clairement, c'est que il semblerait que l'automation ou les premières expériences d'automation soient nées par un désir que l'homme avait, en fait, d'explorer en fait une forme d'altérité, et que c'était une manière aussi de prendre distance par rapport à son propre corps et de pouvoir l'observer comme quelque chose d'étrange, mais aussi de créer une relation à l'autre.
Est-ce que les espaces de liberté libèrent ? Est-ce que les espaces de conformisme, veut dire, enferment ? Est-ce que le contraire ? Est-ce que, voilà. Et donc, est-ce que ce n'est pas dans la dynamique et dans l'échange avec les autres qu'en fait, on se libère vraiment ?
À leur parler, j'évoque deux figures d'artistes qui viennent du théâtre. D'un côté, il y a l'homme que j'ai pu rencontrer à Cracovie, à l'époque, pendant l'état de guerre, qui s'appelait Tadeusz Kantor.
Mm-hmm. De la reconstruction du passé. Alors, par exemple, un de ces moyens, c'est la répétition. C'est-à-dire, dans notre mémoire, il y a les clichés. Les clichés qui sont statiques, ils ne sont pas en mouvement, ils ne se développent pas. Ce n'est pas la fable, ce sont les clichés, ce sont les images, oui, qui sont dans notre cette cartothèque, vous savez, de notre mémoire, de notre tête. Mais si je voudrais reconstruire quelque chose de mon passé, je vois les clichés. Ils apparaissent, ils disparaissent. Ils apparaissent, ils disparaissent. Parce que c'est le fonctionnement de cet appareil mémoire. C'est les clichés qui sont toujours dans l'état de naissance et de mourir.
Et l'autre, Samuel Beckett.
Le travail, il est théâtral. Il est de l'ordre du spectacle, même s'il est non spectaculaire, ou qu'il opte pour un langage volontairement non spectaculaire. Il fait usage d'artifices, mais qui sont visibles. Il a pas mal, depuis quelques années, fait usage de poupées aussi, de prendre distance avec la figure humaine, mais en même temps de pouvoir mieux l'observer. Et puis je pense qu'il y a quelque chose, oui, évidemment, en attendant Godot, je crois que c'est très présent dans leur travail aussi.
Peut-on savoir où monsieur a passé la nuit ?
Dans un fossé.
Un fossé ?
Où ça ?
Par là. Et on ne t'a pas battu ?
Si, pas trop.
Toujours les mêmes ?
Les mêmes ? Je ne sais pas.
Enfin, il y a quelque chose de grotesque.
Là, en tout cas, dans l'atelier, on voit une fileuse qui est très, très élégante. Et on voit aussi une potière qui, elle, est un peu plus rustre, alors que la fileuse est toute en finesse, avec une chevelure brune très longue et des lèvres très rouges.
Peut-être qu'il y a quelque chose qui relie ou qui rejoint cette idée de la lenteur, mais qui est lié à l'attente.
Il y a des moteurs dedans. Je pense la moitié environ vont être équipés d'un moteur.
J'ai l'impression que le travail de Harald Eyos, en tout cas ce qu'ils produisent, donc leurs personnages, leurs photographies, leurs sculptures, leurs performances, ont toujours quelque chose de très mutique, statique, inerte, qui est dans une forme d'attente, mais qui se rend aussi d'emblée disponible pour un changement, ou un changement qui par contre n'est pas nommé dans le travail. Mais on sent que il y a un état suivant qui est possible.
Dès que quelqu'un entre, il y a une sorte d'œil électronique et ça va déclencher une sorte de scénario, parce qu'il y a aussi des gens qui vont commencer à chanter ou hurler, ou faire un mouvement assez idiot.
L'histoire aussi. Mais il n'y a pas de scène. Hein.
Moi, c'est Harald Thijs. Jos de Gruyter.
Je vais rencontrer votre collaboratrice qui s'appelle
Margot Schwartz. Il y en a d'autres, hein.
Il y a ce qu'on appelle dans l'atelier le pizza guy, donc le pizzaiolo.
Margot Schwartz.
Qui, pour l'instant, a l'air d'être un des personnages les moins perturbés de cette petite famille. Il a l'air très sain, il a l'air aussi très concentré. Il a tous ses outils sur la table. Il a les aliments pour faire la pizza, la pâte, la toque de cuisinier. Il a l'air très concentré.
On avait déjà collaboré à la loge il y a quelques années. Mais Margot est artiste. Mais depuis un an et demi, je dirais, aussi commencé à aider Harald Eyos et quelque part à les assister dans leur travail.
Flap et Flop sont deux comiques originaires de Bilzen, un village du Limbourg. Les plaisanteries de Flap et Flop sont tellement nulles que personne n'a envie de les entendre. Dès lors, lorsque Flap en raconte une, seul Flop parvient à en rire et vice-versa. Ils vont ainsi de village en village avec leur chariot. Parfois, c'est Flop qui s'y tient debout, parfois Flap. Ils se rendent là où ont lieu les kermesses ou marchés annuels et ils essaient d'attirer l'attention du public en chantant très fort.
Mais après, il y a toute une équipe et je pense qu'en tout, il doit y avoir une dizaine de personnes, un peu plus, une quinzaine. Il y a aussi un responsable de production qui fait la coordination de toute la production, qui travaille aux Wheels, en fait. Et puis, on a une agence de communication voilà, des personnes qui sont spécialisées dans toutes les fonctions qui sont nécessaires pour mener ce projet.
On dit de Christinus Hoplinus qu'elle est possédée par Satan. Initialement, Christinus Hoplinus était très catholique. Elle était une fervente lectrice des Écritures et condamnait à la damnation tout ce qui vivait dans le péché. Christinus était convaincue que l'Antéchrist apparaîtrait de son vivant. Elle-même serait l'élue qui livrerait l'ultime combat contre le mal. Une nuit, après un violent orage, on la trouva au milieu des buissons, dans un état de transe dont elle n'a jamais pu s'extraire.
On est aussi fasciné comment les automates, quand il n'y a personne, ils ne bougent pas. Et la nuit, ils doivent vivre ensemble pendant 6 mois, jour et nuit. Et c'est quand même quelque chose qui nous fascine aussi. Qu'est-ce qu'ils font la nuit, quand il n'y a personne? Qu'est-ce qu'ils pensent? Parce qu'ils ont tous un peu le regard rêveur.
Le visiteur est visiteur. Et par contre, il entre dans une exposition qui se présente comme une sorte de spectacle dans lequel il joue un petit rôle parce qu'il va animer le spectacle.
Ils ne sont pas là eux-mêmes pour s'échapper à une réalité trop cruelle, peut-être.
Effectivement, une peur présente au quotidien et le repli sur soi est... En fait, la conséquence de cette peur, généralement, c'est donc à l'éveil à soi-même et à l'éveil à l'autre qu'on est appelé. Et donc, j'espère vraiment, et c'est toujours un plaisir quand c'est la culture qui nous amène à dépasser ce repli sur soi.
La Biennale de Venise génère un public très dense. Je serais très curieuse, mais il y en aura au moins la nuit, en fait, de pouvoir être témoin de ces moments-là. Mais a priori, lorsqu'il n'y a pas de visiteurs, l'exposition est à l'arrêt et inanimée. Et c'est seulement lorsque quelqu'un rentre dans le pavillon que la boucle du mouvement se met en marche.
Parce qu'ils ne bougent pas ensemble, c'est parfois il y a un son. Oui, je pense que ça va marcher très bien quand il n'y a pas beaucoup de monde. Si c'est plein... À l'ouverture, je pense que ça va être un peu...
L'interrogation du spectateur face à la personne qui est emprisonnée est narrativement une sorte de casse-tête qui est très intéressant, je trouve.
Mais quand c'est silencieux,
oui.
Et tu regardes, et soudainement il y a un type qui commence à... Oui, je suis curieuse aussi.
Asile de nuit, oui. C'est comme à Paris, hôtel de Dieu, oui, où se trouvent beaucoup de putains, de souteneurs, des artistes maudits, les gens qui sont tout à fait dégénérés. Ce sont les bas-fonds de la société, les bas-fonds.
Celui-ci n'a pas de nom, il s'appelle Unknown, parce qu'il n'y a personne qui connaît son nom. Mais c'est un type... grec, ça c'est la seule chose qu'on sait. C'est un psychopathe. Son terrain d'action, c'est les plages ensoleillées à 40 degrés. Là, il commence à s'inspirer pour faire des choses.
Quand il a bu trop de raki, une sorte de gueule de poids qui devient psychotique.
Il y a énormément d'artistes qui ont travaillé et qui travaillent avec des marionnettes pour différentes raisons.
Il ne va pas parler, mais il a une petite poupée sur ses genoux qui va raconter des histoires assez effrayantes.
Tous les acteurs, tous les personnages de toutes les pièces de la dramaturgie mondiale sont tous morts. Sont tous morts parce qu'ils ne vivent pas. Et ils viennent de ce monde au-delà à notre monde présent. Mais comment ils se comportent dans notre monde? Très drôlement, c'est-à-dire ils cherchent, doivent trouver ce double.
Une poupée des années 20 encore, canadien.
C'est assez fascinant à voir, oui. Je trouve que c'est stimulant, en fait, que cette forme, finalement, très traditionnelle et archaïque de représentation, parce que quelque part c'est une tentative de représentation distanciée, soit encore si effective, surtout dans la communication actuelle. Et je pense que ce sera très effectif, oui, à Venise aussi, en 2019.
Ouais. Et qui revient en Europe pour raconter des histoires effrayantes.
Il cherche le double. Et le double, c'est son personnage de bas-fond.
La fileuse qui file de la laine, elle a le visage d'Irmgard Speck, qui était une sculpture qui existait déjà dans le travail des artistes. Une physionomie, son visage, existe déjà dans une série que les artistes ont déjà faite, qui était des têtes en plâtre. Cette tête avait déjà été modélisée. Et elle revient ici sous les traits d'une fileuse.
Christinus Oplimus.
Et moi qui m'apprends beaucoup, en fait, dans la cohabitation avec le travail.
Ça enregistre encore ?
Oui.
Ah oui. Ça, c'est une femme qui s'appelle Kate Webster, qui avait tué sa maîtresse. C'était une bonne, on dit ça comme ça. Elle va être sur un rocking chair en train de coudre.
Une posture par rapport à la communication.
Anne Clerchon.
Il pratique une communication qui est très binaire ou qui apparaît de manière très générique, mais qui en fait est très ouvert, je pense, subtil. Je pense qu'elle est très active, la communication qu'il met en place. Et ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est qu'elle est la rigueur qu'ils appliquent à leur travail, à la manière dont les idées sortent et sont distribuées, est telle que en fait, ils refusent la médiation. Et en fait, je pense que c'est très important aujourd'hui, quelque part, peut-être de refuser la médiation. Je le vois aussi dans les institutions culturelles, parce que je suis plus dans ce côté-là, dans ma responsabilité dans le champ de l'art. Et je pense qu'on a beaucoup parlé du besoin de médiation, mais que peut-être qu'on se rend compte que c'est une erreur. Et que le plus intéressant, c'est de pas adapter son langage pour parler à l'autre, mais c'est d'arriver à lui parler directement. Et je pense que c'est quelque chose de très fort dans leur travail.
Ça ici, c'est les habits d'un joueur de sitar, on dit ça comme ça. C'est aussi un tueur allemand.
En découvrant peu à peu chacune des poupées au centre ou derrière ces grilles, on se rend compte qu'elles sont toutes liées entre elles par cette forme de folie, d'aliénation, et que finalement ce serait presque ces personnages derrière les grilles qui seraient les plus libres, alors qu'on aurait tendance à les marginaliser et à les mettre à l'écart de la société.
Margot Schwartz.
14h, la ministre Gréoli sera là.
Oui, c'est l'ouverture officielle.
Il y a quelque chose de caricatural, évidemment, dans ce qu'ils nous ont offert. Et cette caricature va certainement éveiller des lectures.
Et hommage à Éric Descartes, 1953-2019, qui occupa le pavillon de la Belgique en 2006. Avec Laurent Jacob.
Notre cher, 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 cher et tendre ami Éric Descartes, oui, avec lequel on a beaucoup, beaucoup travaillé depuis 1983, je crois, 3-4. Et d'ailleurs, pour l'instant, puisque nous sommes via Garibaldi avec une petite boutique pour présenter nos archives, j'ai spécialement ressorti un facsimilé qu'on avait sorti en 2007, qui s'intitule « La nuit transfigurée », et qui est un facsimilé d'un manuscrit qu'il avait fait en 86. Et Éric Descartes, c'était vraiment un ami très proche, tellement polyvalent, puisque c'était aussi un grand intellectuel, passionné de mathématiques, aussi un cruciverbiste, quelqu'un qui était passionné aussi de philosophie, qui a été acteur, qui a été, pour nous par exemple, médiateur pour une exposition à Venise en 86, pendant l'été, avec son ami Francine Landrin, mais aussi Carmelo Verone et Eugène Zavitskaya, ils étaient quatre pour ça. Un homme de projet, extrêmement rare. Extrêmement rare.
Je viens à toutes les biennales, que j'expose ou que j'expose pas. Mais cette année, je viens essayer de récupérer mes œuvres que j'ai exposées il y a 2 ans au Palazzo Pizzani et qui ne m'ont pas été rendues. Donc ça, c'est ma mission. Récupérer mes œuvres.
Roland.
Par exemple, j'ai beaucoup aimé, juste avant d'arriver dans les Giardini, je suis arrivé à un petit bar verrière où il y avait une réception pour quelqu'un de très très intéressant qui essaye de sauver tous les artistes qui ont pris des risques dans leur pays et qui ont fait de la prison, qui ont été torturés et qui sont partis de leur pays. Et il essaye de les aider. Ça m'a beaucoup touché. Moi, je vais essayer aussi de les aider, de toute manière possible. C'est très important, cette chose-là. C'est une démarche vraiment que j'apprécie beaucoup. C'est les choses qui me touchent. Quand vraiment, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un phénomène social, politique, religieux, et où il faut vraiment s'investir pour changer le monde. Parce que le monde est en train de mal tourner. C'est grave.
À cet égard, Orlan, j'ai entendu plusieurs fois le mot peur sortir de la bouche de gens qui étaient qui commissaire, qui artiste dans cette biennale 2019 à Venise. Ce mot peur, il résonne comment en vous ?
Il est insupportable parce qu'il ne faut jamais avoir peur. Mais on peut être extrêmement inquiet. Tout peut mal tourner pour les artistes. Parce qu'effectivement, dès qu'il y a de la censure, eh bien, les artistes ne peuvent plus s'exprimer. Et déjà, dans le monde, comment faire, puisque Facebook cherche le moindre sein nu pour le flouter, ou le moindre blog qui montre quelqu'un de nu pour fermer le blog? C'est hallucinant, parce que c'est des principes qui viennent de la religion. Les gens qui croient, moi je ne crois pas, hein. Bon, je ne crois pas en ces sornettes, mais ceux qui croient, c'est incroyable. Si c'est l'œuvre de Dieu, le corps et la sexualité, au contraire, il devrait être heureux qu'on montre le chef-d'œuvre de Dieu. Et le chef-d'œuvre de Dieu, c'est forcément le corps nu la sexualité. Car c'est comme ça qu'on se reproduit. Il faudrait d'ailleurs se reproduire un peu moins dans le monde, hein, parce que là, pour le moment, on est plein, on est full. Et produire des enfants, c'est de la pollution, de la surpollution. Et tout tourne mal. Il y a vraiment des réactions en chaîne abominables. La faim, la soif, la délinquance, donc effectivement, les policiers, etc. Il faut arrêter la démographie, il faut arrêter. Mao a été très fort d'empêcher tout le monde d'avoir plus qu'un enfant. Bien sûr, ça a tourné mal. Parce que moi, si j'avais été dictatrice, j'aurais fait mieux que Mao. J'aurais dit, d'accord, si vous voulez voir comment la machine marche, faites un enfant biologique. Mais ensuite, vous êtes obligé d'adopter un enfant d'un autre sexe. Et ça rétablissait tous les problèmes. Il n'y avait plus aucun problème. Alors que là, maintenant, bien sûr, ils ont tué toutes les femmes, ils ont empêché toutes les femmes de vivre. Alors, ils ont que des mecs. Alors, c'est dur, hein. Vous voyez, ce serait une très bonne dictatrice. Et en plus, ce serait une dictatrice, j'interdirais les rideaux de douche. Il n'y a rien de pire, quand même, non? Et j'interdirais la mort. Parce que moi, j'ai fait une pétition contre la mort. Il y en a ras-le-bol, quoi, quand même. Ça fait des millénaires qu'on ne nous demande pas notre avis et qu'on doit crever souvent dans des situations abominables. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de serial killer qui n'est pas puni et en plus qui nous torture total sur la fin de la vie? Il faut arrêter avec ce truc-là. La mort de la mort! Ça va?
Biennale 2019. Première partie, participation de la Belgique. Au pavillon des Giardini, Mando Cane. Mention spéciale pour le pavillon de la Belgique. Et hommage à Eric Decartz, 1953-2019. qui occupa le pavillon de la Belgique en 2006. Avec Margot Schwartz, Antoinette Chatiot, Alda Creoli, Emmanuel Dundic, Laurent Jacob, Roland, et les voix de Harold Tess, Jos de Kreuter, Tadeusz Kantor et Anne-Claire Schmidt. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.